Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 15 août 1945, la condamnation du maréchal Pétain. Arrêté à la frontière helvétique, Philippe Pétain est jugé à Paris par la Haute Cour de justice à partir du 23 juillet 1945. Les débats s'achèvent le 14 août vers 21h. Le bâtonnier Fernand Payen termine sa plaidoirie au cri de « Vive la France ». Le président Paul Mongibaud pose alors au maréchal la traditionnelle question. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? L'ancien chef de l'État français répond par une brève déclaration. Au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence. Après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude, ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse, pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu, comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains, mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences, la mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France. Sur ces mots, la Haute Cour de justice se retire pour délibérer. 26 juges doivent se prononcer sur la peine de mort demandée par le procureur général André Mornay. Parmi eux, 3 magistrats, 12 jurés de la résistance et 12 jurés parlementaires. La discussion s'éternise, elle est longue et confuse. Tard dans la nuit, le vote est acquis. Quelques jurés seulement participent à la rédaction de l'arrêt qui est rendu après 7 heures de délibération. La condamnation à mort est obtenue par 14 voix contre 13. Des jurés font alors circuler une demande de grâce qui est signée par 17 d'entre eux. Ainsi, des jurés qui se sont prononcés pour la mort se déterminent quelques minutes plus tard pour la grâce, c'est-à-dire contre l'exécution de la sentence. Il reste à établir l'acte de jugement. Pour ce faire, une commission est constituée. N'ayant pas voté la peine de mort, les 3 magistrats refusent de participer à la rédaction de l'acte qui fixe la condamnation. Ce n'est pas un portrait du régime de Vichy ni du maréchal Pétain que dressent les rédacteurs de l'arrêt, tout au plus un impitoyable schéma, une caricature meurtrière tempérée dans ses dernières lignes par un sentiment de pitié qui s'abrite derrière le grand âge de l'accusé, mais qui n'atténue en rien les charges alléguées contre lui. En réalité, si la condamnation à mort est suivie du vœu qu'elle ne soit pas exécutée, ce n'est pas tant que 17 juges sur 27 est répugné par pitié à faire fusiller un octogénaire, c'est aussi assurément que parmi ces 17 juges, il s'en trouve 13 à avoir acquis la conviction que Philippe Pétain ne mérite pas le châtiment suprême. À 4h du matin, le 15 août, une longue sonnerie retentit. Le tribunal rentre en séance. Les gardes viennent chercher Pétain et ses 3 avocats pour les conduire au prétoire. Le verdict provoque aucune surprise, ni aucune manifestation. Quelques cris de « Vive la France !» retentissent parmi l'assistance, puis le président lève la séance. Pétain se montre surpris de l'indulgence formulée dans les ultimes lignes de l'arrêt de condamnation. Il déclare même ironiquement que les juges avaient été bien gentils. Le 17 août, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, communi la peine de mort en détention perpétuelle. Pétain est d'abord emprisonné au fort du Portalet dans les Pyrénées, puis à partir du 16 novembre au fort de Pierre-Levé sur l'Île-Dieu. Une grâce médicale lui est accordée le 8 juin 1951, alors qu'il est déjà au seuil de l'agonie. Il est amené le 29 juin dans une maison de Port-Joinville où il décède le 23 juillet. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel pour la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Laurent Voulzy qui nous accompagne en chanson avec un titre extrait de son album Listen Love, c'était en 2011, Jeanne.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Emmanuel.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, trois livres pour cette chronique littéraire, à commencer par Les larmes du cardinal, mais c'est une trilogie, il me semble.
Oui, c'est une trilogie de fantasy historique, publiée entre 2007 et 2010 aux éditions Bragelonne, rééditée par les éditions Gallimard, et elle se poursuit d'ailleurs par deux autres suites. Alors c'est un univers de KPDP.
Alors c'est signé Pierre Pevel.
C'est signé par Pierre Pevel. Et c'est un univers de KPDP complété par des dragons. Alors évidemment, on a assez peu l'habitude avec Alexandre Dumas, puisque nous allons nous retrouver dans les mêmes périodes que les Trois Mousquetaires. On a assez peu l'habitude d'avoir des dragons, mais là, il y a des dragons. Alors le tome 1, c'est Les larmes du cardinal. À Paris, en 1633, Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Le cardinal est l'une des personnalités les plus puissantes de son temps, du monde d'ailleurs, et l'une des plus menacées par ses ennemis. L'espionnage, l'assassinat, la guerre, tout est fait pour parvenir à leur fin. Et même la sorcellerie, ce qui est l'œuvre du plus fourbe adversaire du royaume. Et en l'occurrence, les plus fourbes adversaires du royaume, ce sont les dragons. Ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps ont en effet survécu et se dissimulent parmi les humains, ourdissant de sombres complots pour la reconquête du pouvoir. Déjà, la cour d'Espagne est tombée entre leurs griffes, et en cette nuit de printemps, Richelieu décide de jouer sa carte maîtresse. Il reçoit en secret un bretteur exceptionnel, un officier dévoué que la trahison et le déshonneur n'ont pourtant pas épargné, le capitaine Lafargue. Car l'heure est venue de reformer l'élite secrète qu'il commandait jadis, une compagnie d'aventuriers et de combattants hors du commun, rivalisant d'élégance, de courage, d'astuce et ne redoutant nul danger. Et cette compagnie va s'appeler les Larmes du Cardinal. Tome 2, l'alchimiste de l'ombre. À peine remis de leurs dernières aventures, Lafargue et ses larmes du cardinal doivent une nouvelle fois reprendre du service. La très belle et très dangereuse Alessandra Di Santi, célèbre espionne connue sous le nom de l'Italienne, les prévient d'un complot visant le trône de France et impliquant leur plus ancien adversaire, l'alchimiste des ombres, un dragon dont le seul but est de mettre à bas le royaume de France. Tome 3. Paris brûle-t-il ? Déjà un dragon a survolé Paris et est passé à l'attaque. Face à lui, un homme a péri dans un dernier acte de bravoure et de sacrifice, Almadès, le maître d'armes espagnol des larmes du cardinal. La bande de Lafargue est en deuil et la colère appelle la vengeance.
Alors nous sommes entre l'histoire et le fantastique.
Ah, c'est du complètement fantastique. C'est de l'Alexandre Dumas avec des dragons.
Ah oui, effectivement, voilà. Oui, c'est assez saisissant. Alors, je rappelle le titre...
C'est à lire, hein, je vous assure.
Rappelle le titre de cette trilogie, Les larmes du cardinal, c'est signé Pierre Pevel, c'est paru dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Le cinéma était leur pays. Alors, on est dans un tout autre registre, Emmanuel, avec ce livre de Serge Siritsky, paru aux éditions Vérone dans la collection Authentique.
C'est l'histoire réelle d'une famille juive, les Siritsky, qui trois fois de suite, pour sauver leur vie, ont dû fuir le pays dans lequel ils étaient établis pour se réfugier dans un pays dont ils ne parlaient même pas la langue. À chaque fois, ils ont réussi dans le cinéma, en révolutionnant le métier. La quatrième fois, la libération, ils sont revenus en France pour récupérer leurs biens tombés aux mains des nazis. Mais accusé de collaboration avec les nazis, le chef de famille a été condamné à la prison et spolié. Néanmoins, repartant de zéro en France, ses fils ont de nouveau réussi et 68 ans plus tard, ses petits-enfants viennent de découvrir les preuves de cette spoliation et cette spoliation était le fruit d'un sidérant complot. C'est une approche tout à fait nouvelle mais tout à fait réelle, hein, puisque c'est l'histoire de la famille même de l'auteur, de l'histoire du cinéma mondial sur trois continents.
Le cinéma était leur pays, c'est signé Serge Siritsky, c'est publié dans la collection Authentique aux éditions Vérone. Et nous terminons cette chronique avec La femme habitée de Gioconda Belli aux éditions Le Cherche-Midi.
Voici un roman semi-autobiographique dans les années 1970, de retour en Amérique centrale après des études d'architecture en Europe. Lavinia, jeune femme issue d'une famille bourgeoise, découvre son pays natal agité par des bouleversements sociaux. De l'éveil politique au combat, sa rencontre avec Felipe, un révolutionnaire engagé dans la lutte clandestine contre la dictature, tout ça va la propulser dans le mouvement de libération du pays, en même temps que dans la passion amoureuse. Le pays décrit est certes imaginaire, mais toute ressemblance avec le Nicaragua n'est pas fortuite.
La femme habitée de Gioconda Belli s'est publiée aux éditions Le Cherche-Midi. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette première chronique littéraire de la nouvelle saison d'Historama. Ainsi s'achève cette émission. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Laurent Voulzy, son album « Lies and Love ». C'était en 2011, nous écoutons C'était déjà toi et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission.